Chapitre 2. Les services du shérif du comté de San Diego possèdent une antenne à Borrego Springs, si bien que plusieurs adjoints se trouvent sur les lieux de la fusillade à peine éteint l'écho des coups de feu. Il s'agit de policiers efficaces et bien formés, c'est-à-dire des emmerdeurs de première, aux yeux de Carter Yergun. Dubose et lui sont des agents de la NSA, alors que ces types sont de simples flics de base. Ils souhaitent pourtant enquêter sur les circonstances du drame au prétexte que celui-ci s'est déroulé sur leur territoire. Sauf qu'ils n'ont rien à foutre là. Il s'agit d'une affaire de sécurité nationale qui les dépasse de 100 coudées. Aucun d'entre eux ne possède les qualifications nécessaires pour participer à une telle enquête, d'autant que pas un seul de leurs chers concitoyens n'a eu une égratignure. Les dégâts se limitent à une caisse enregistreuse éclatée par une balle, quelques bonbons, chewing-gum et autres magazines souillés par le sang et la cervelle des deux victimes. Pas de quoi fouetter un chat. Cela n'empêche pas les hommes du shérif de mitrailler cette prétendue scène de crime et de relever les noms des témoins, au grand agacement de Yergun et Dubose. Ce dernier se voit contraint d'appeler du renfort, histoire de pousser dehors les flics du cru. Le chef de la maréchaussée locale ne tarde pas à se pointer. Un certain capitaine carré, ça ne s'invente pas. Une mâchoire de bulldog, des yeux d'acier dignes d'un videur de Las Vegas, capable de jeter dehors sa propre mère en l'accusant de tricher si elle gagne plus de $40 au blackjack. Il insiste pour connaître l'identité des victimes et ne veut rien entendre lorsque Yergun lui explique qu'il s'agit d'agents étrangers. Il exige de les fouiller pour voir leurs papiers. Fort heureusement, Yergun et Dubose ont eu la présence d'esprit de délester les Washington de leur portefeuille avant l'arrivée de la cavalerie. C'est ainsi qu'ils ont découvert la clé d'une Honda dans le manteau du mort. Pendant que Yergun se débat avec Carré, Dubose s'éloigne en direction du parking, en annonçant son intention de relever les numéros d'immatriculation de tous les véhicules, au cas où l'un d'eux appartiendrait aux victimes. En réalité, il essaie d'ouvrir l'une après l'autre les Honda garées là, en se servant de la clé retrouvée sur les Washington. Carré prend à part Oren Luckman, le gérant, afin de recueillir son témoignage. Pendant ce temps, l'un de ses hommes ramasse les cartouches vides, tandis qu'un autre présente à Yergun l'entrepreneur de pompes funèbres de la ville, qui fait également office de légiste. Dubose, de retour, annonce discrètement à Yergun que la clé correspond à une voiture verte, pleine à ras-bord de provisions achetées dans l'autre supermarché du cru. Tout indique que les Washington comptaient entrer en hibernation pendant plusieurs semaines. Rien ne permet d'identifier le propriétaire de la Honda. La boîte à gants ne contient ni papier, ni certificat d'assurance. Dubose profite du fait que Luckman raconte à Carré les circonstances de la fusillade, avec force détails plus ou moins imaginaires, pour se glisser dans son bureau. Il compte utiliser son ordinateur pour retrouver l'identité du propriétaire de la Honda, en fouillant les bases de données du service californien des permis de conduire. Yergun, de son côté, continue de se coltiner tous ses fouilles-mères en uniforme. S'il y a bien un truc qui l'énerve chez les flics de base, où qu'ils soient, c'est leur conviction que faire respecter la loi est un devoir sacré, alors que la loi, quand on y réfléchit bien, repose entre les mains d'une bande de politicards cupides et assoiffés de pouvoir. Et tout indique que Borrego Springs est un nid de flics intègres. Le mieux est encore de prendre son mal en patience. Dès que Dubose aura pu identifier le propriétaire de la Honda, ils sauront où se planquaient les Washington. Il ne leur restera plus qu'à cueillir le petit garçon.